Thomas Romer, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Thomas Romer, vous êtes actuellement, vous occupez la chaire milieu public au Collège de France, Collège de France dont vous êtes aussi l'administrateur, et chaire dans laquelle vous élaborez une recherche à la fois pluridisciplinaire, archéologique, philologique, historique, qui précise, qui réfléchit, qui analyse aux conditions d'émergence et du texte biblique. Et vous êtes aussi l'auteur de très nombreux livres qui servent justement à élucider ces différentes conditions et les différentes possibilités de sens de lecture de la Bible. Et puis, vous nous proposez aujourd'hui un petit livre extrêmement vif et sagace aux éditions Labor et Fides dans la collection « Qu'est-ce que ça change ?» En l'occurrence, la Bible, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est une question extrêmement vaste, mais par laquelle d'ailleurs vous commencez par une affirmation très simple dans la première partie du livre qui est intitulée tout simplement « La Bible n'existait pas ». Donc commençons par là. De quoi allons-nous parler puisque la Bible n'existe pas?
La Bible n'existe pas. Bonsoir tout le monde. En effet, selon vos origines religieuses, que vous êtes catholique, protestant ou juif, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n'avez pas forcément la même Bible. Il y a une Bible juive qui est la première partie de ce qu'on appelle dans le monde chrétien l'Ancien Testament, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Je sais pas jusqu'à où on va aller dans le détail.
On ira un peu
par là. Et puis il y a la Bible protestante qui veut reprendre la Bible juive, mais qui l'organise autrement. Ensuite, il y a la Bible catholique qui rajoute des textes, des livres qui n'existent pas dans la Bible juive, mais qui étaient dans la traduction grecque. Et puis, il y a les églises orthodoxes. Ça devient très, très compliqué parce que selon chaque église, il y a encore d'autres livres qui s'y ajoutent. Donc, je crois que l'Ancien Testament le plus grand et l'Ancien Testament éthiopien doit beaucoup de choses qu'on ne va pas tout énumérer. Mais déjà, pour constater ça, c'est important parce qu'on parle toujours de la Bible, alors qu'il faudrait plutôt se poser la question de quelle Bible est-ce qu'on parle, et peut-être aussi rappeler que la Bible, c'est pas un livre, même si aujourd'hui, évidemment, si vous allez dans la librairie Mola, vous pouvez avoir plusieurs Bibles, mais on a l'impression que c'est un livre, mais à l'origine, c'est en fait une sorte de bibliothèque où on a mis ensemble toutes sortes de livres qui, au moment où on a inventé le codex, sont devenus en fait un seul livre. Mais encore, chez les moines, dans les monastères, en fait, chaque livre était en fait séparé jusqu'à l'invention de l'imprimerie. On avait plus conscience encore de ce fait que la Bible, en fait, c'est un pluriel, en fait, à l'origine, d'ailleurs, et qu'il faut plutôt imaginer que vous êtes dans un rayon de librairie et vous prenez tel ou tel livre. Évidemment, les livres sont organisés d'une certaine manière, mais même ça, ça peut changer selon, comme je vous ai dit, les traditions.
Alors, justement, pour qu'on ait tous à peu près le cadre général de la discussion, si on s'en tient à la partie que généralement d'ailleurs vous préférez appeler la Bible hébraïque, oui, plutôt que l'Ancien Testament, ce qui voilà pour les chrétiens est appelé généralement l'Ancien Testament avec les subtilités que vous allez nous indiquer, est-ce que vous pourriez nous donner à la fois d'un côté le moment de la constitution en tant que livre au pluriel, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on rassemble les différentes parties? Et puis on évoquera peut-être après aussi, parce que c'est une dimension importante, les conditions même d'élaboration des textes.
Tout à fait. Alors, tout commence avec ce qu'on appelle dans le judaïsme la Torah, le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, qui sont d'ailleurs les mêmes pour toutes les Bibles. Donc, si on cherche quelque chose de commun, ce sera en effet le Pentateuque, les cinq premiers livres, et ces rouleaux, parce qu'à l'origine, il faut vous rappeler, c'est des rouleaux, ont été pour la première fois mis ensemble, pas encore dans l'état où on le connaît aujourd'hui, à la suite, en fait, d'une catastrophe majeure qui était la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant l'ère chrétienne, et ensuite l'exil babylonien qui a fait, en effet, que ce que va devenir le judaïsme, parce qu'à ce moment-là, c'est pas encore le judaïsme, c'est les Judéens qui sont dispersés à Babylone. Certains sont restés dans le pays, d'autres se sont réfugiés en Égypte, d'autres encore sont allés en Asie mineure. Donc il y avait cette grande dispersion, la diaspora, et pour en effet trouver une sorte de cohérence pour cette diaspora, qui n'avait plus de cohérence ni politique ni territoriale, ben on s'est dit il faudrait peut-être avoir un texte fondateur, et on s'est mis à rassembler certaines traditions sur la création du monde, sur les patriarches et les matriarches, sur Moïse et l'Exode, et on en a fait une grande histoire qui est devenue, comme le dit le poète Heinrich Heine, qui est devenue une patrie portative, c'est-à-dire une manière où, en effet, dans la dispersion, en lisant et en respectant un certain nombre des rites qui sont décrits, bah, on trouve une identité malgré le fait qu'on est en dispersion.
Ce qui signifie, vous l'avez évoqué en passant, on réunit plusieurs traditions.
On réunit différentes traditions et... tout en acceptant que c'est différentes traditions, mais si vous lisez l'histoire d'Abraham, bah, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'histoire de l'Exode. Si vous lisez l'histoire de l'Exode, de Moïse et l'Exode, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'histoire des patriarches. Donc on combine en fait une histoire à partir des traditions qui sont très différentes les unes des autres à l'origine. Et on n'a pas tellement l'idée que ça doit être une histoire sans faille. Parfois, en effet, on se rend compte qu'on raconte deux fois la même chose ou pas tout à fait la même chose. Mais par exemple, dans le Pentateuque, vous avez deux fois les 10 commandements qui ne sont pas tout à fait pareils. Mais on se dit, bah, cette tradition-là des décalogues, des 10 commandements, et il y a cette tradition-là. On va prendre les deux. On ne va pas trancher laquelle est meilleure. Donc, il y a cette idée, en fait, que c'est une collection de différentes traditions. Et c'est très important parce qu'on a souvent l'idée que la Bible décèle ou on contient un message. En fait, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de traditions qui se trouvent dans ces textes fondateurs.
Oui, ce qui est très important. Alors, l'exemple canonique, c'est pas le bon mot, mais le plus connu pour cela, c'est effectivement au moment de la Genèse, c'est les deux créations possibles de l'homme, les deux modalités possibles, les deux récits possibles qui coexistent. Et cette coexistence, elle est évidemment assumée par ceux qui rassemblent ces textes-là. Donc pour vous, cette coexistence, qu'est-ce qu'elle exprime? C'est-à-dire que les gens qui en même temps vont éditer un texte où deux fois l'homme est créé dans des façons différentes, comme vous l'évoquerez, signifie que les deux sont possibles, qu'on réunit finalement des traditions, et derrière c'est un geste politique par lequel on va réunifier peut-être des peuples qui ne croient pas exactement la même chose.
Alors, c'est d'abord, peut-être, il faut rappeler, si vous ouvrez la Bible dans les premières pages, vous lisez d'abord que Dieu créa, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et si vous continuez, bah, il crée toutes sortes de choses. Et à la fin, il décide de créer l'être humain. Et dans le premier chapitre, l'être humain, il est créé d'emblée, mâle et femelle, homme et femme. Et les deux ensemble sont créés à l'image de Dieu. Donc on se dit, bah, il y a déjà la différence sexuelle, la diversité, elle est là dès le début. Et puis vous passez au chapitre 2, et tout d'un coup, vous lisez que, bah, il n'y avait pas encore d'être humain pour cultiver la terre. Et là, tout d'un coup, il y a un Adam, une personne qui est appelée Adam, c'est pas encore un nom propre, dont on ne sait pas très bien quelle est son identité sexuelle, mais qui est tout seul dans le jardin. Et Dieu se rend compte, en effet, que tout seul, ça va pas. Il se dit, bah, il faut un vis-à-vis pour ces Adam. Et qu'est-ce qu'il va faire au début? Bah, il va créer les animaux. Donc Dieu est un peu un bricoleur au début, ce qu'il ne sait pas très bien, en fait. Et puis après, il se rend compte que c'est bien les animaux, mais ce n'est pas tout à fait le vis-à-vis. Et ensuite... Alors, la version traditionnelle, c'est qu'il prend une côte d'Adam et en fait la femme. Mais comme les rabbins l'ont déjà vu, le mot qui est utilisé, c'est pas la côte, c'est le côté. Donc, c'est plutôt une sorte de dédoublement. Donc, il y a toute une réflexion, en fait, sur l'altérité. Et, en fait, Adam est scindé en deux, d'une certaine manière, pour devenir Ish et Isha, homme et femme. Et donc là, vous avez une réflexion, en fait, je dirais, sur la nécessité, en fait, pour l'être humain d'avoir un vis-à-vis. Alors que dans le premier récit, c'est plutôt un constat qui est assez, assez révolutionnaire, où on dit, en fait, homme et femme, ensemble, sont image de Dieu. Alors qu'il faut se rappeler que le titre « Image de Dieu », à l'origine, c'est un titre qui est réservé aux pharaons, aux rois assyriens ou babyloniens. Et ce que fait ce premier récit, il démocratise ça. Il dit, mais tout l'être humain, homme, femme, c'est image de Dieu. Donc, en fait, on a deux discours qui se contredisent pas forcément, mais qui mettent l'accent sur des choses différentes. Je dirais, le deuxième récit du paradis, qui continue avec les serpents, etc., c'est toute une réflexion faite sur la condition humaine, alors que, je dirais, le premier récit, c'est une réflexion, en fait, sur ce que c'est l'être humain face à la divinité et sur la dignité humaine, en fait, puisque, comme le dit un psaume, que l'être humain est fait juste un peu différent de Dieu, mais il a quelque chose de divin, et puis Dieu va lui laisser, d'une certaine manière, la gouvernance de la terre. Ben, ça se passe pas toujours très bien, mais l'homme a, l'être humain a cette responsabilité. Donc, en fait, l'idée de mettre ces deux traditions ensemble, c'est en fait de dire, quand on parle de l'être humain, de la condition humaine, il y a différentes manières d'aborder la question. Il n'y a pas une seule manière. Et ça, je pense, c'est très important, si vous lisez la Bible, de se rendre compte qu'il n'y a pas un seul discours, mais qu'il y a des discours, et il faut, en effet, essayer de comprendre pourquoi il y a cette diversité. La vérité n'est pas toujours très simple, et donc ce que fait la Bible, cette bibliothèque, c'est de rassembler toutes les réflexions des humains sur ce qu'ils ont et aussi le rapport avec ce qu'ils appellent Dieu.
Parce que ce que vous montrez, par exemple, dans le cadre de votre chaire, c'est comment ces textes, quand ils s'élaborent, sont à la fois évidemment pris dans un réseau de savoirs, de connaissances qui sont ceux du lieu et du moment de leur élaboration. Et qu'en même temps, ils élaborent quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire que si on prend l'exemple là aussi très connu du déluge, on sait qu'il y a d'autres déluges dans d'autres récits au même moment au Moyen-Orient. Mais en revanche, et vous insistez là-dessus, ce que fait la Bible du déluge, c'est particulier. C'est pas ce qui est présent dans Gilgamesh ou ce qui est présent dans d'autres récits.
Tout à fait. Alors, la Bible n'est pas tombée du ciel, et beaucoup de textes, notamment dans les récits des origines, mais aussi dans les textes de sagesse et d'autres, sont inspirés des grandes traditions mésopotamiennes, mais aussi égyptiennes. Et le déluge, c'était vraiment un peu le best-seller à l'époque. Donc, on a beaucoup de versions sur le déluge qui sont reprises assez fidèlement dans la Bible, avec quand même une grande différence, ou deux différences, ou à trois. La première, c'est que dans les récits mésopotamiens du déluge, comment ça se passe? Les humains font trop de bruit et les dieux sont agacés. On dit, mais ça va pas, ça grouille de partout, on n'arrive plus à dormir, donc on va les effacer. Donc ils essaient toutes sortes de choses, mais finalement, donc ils décident de faire le déluge. Alors, il y a un de ces dieux qui est un peu l'ami des humains, un peu comme le Prométhée grec, qui va aller voir Utnapishtim, le Noé mésopotamien, va lui dire, mais fais attention, il y a quelque chose qui se trame, construis-toi un bateau, et puis comme ça, tu pourras échapper à ce déluge. Donc là, vous voyez qu'il y a les dieux qui décident de faire du mal, et de l'autre côté, il y a un dieu qui, en fait, avertit cet humain-là pour que l'humanité puisse survivre. Alors, si vous lisez le récit biblique, ou les récits bibliques, parce qu'à l'intérieur du grand récit biblique du déluge, on a aussi mis ensemble deux traditions, mais c'est moins important maintenant, vous constatez qu'il y a un seul dieu, Yahvé, le dieu d'Israël, en fait, qui va jouer les deux rôles. Il va dire... Cette humanité, elle est trop mauvaise. Donc là aussi, on va faire entrer en fait une réflexion éthique qu'on n'a pas dans le déluge mésopotamien. Donc c'est la violence qui avait en effet augmenté sur la terre. Et donc ce constat que c'est plus possible. Donc Yahvé décide en fait de faire venir le déluge. Mais en même temps, c'est le même Yahvé qui va en effet aller avertir Noé en disant, attention, fais-toi une arche, prends de chaque animal une espèce, ou sept, dans l'autre tradition, des animaux purs, et comme ça, tu survivras, et l'humanité survivra au déluge. Donc, la différence, déjà, c'est que dans la Bible, il y a un Dieu qui fait les deux, et l'argument ou l'explication du déluge, elle est devenue plus éthique, plus morale, plus politique d'une certaine manière. L'homme qui était fait image de Dieu, il n'arrive pas à se comporter comme image de Dieu. Et puis peut-être la troisième différence, c'est que en fait le déluge fait aussi une césure au niveau de la manière où les humains peuvent cohabiter avec la divinité, puisqu'à la fin du déluge, Noé fait un sacrifice et la fumée monte vers les cieux. Avant, Dieu se promène sur la terre, dans le jardin, dans l'histoire de Caïn et Abel également, et tout d'un coup, il est dans le ciel. Il faut montrer en fait comment on peut être en communion. Mais en même temps, si on fait un sacrifice, c'est un sacrifice animalier. Donc, on va aussi utiliser les animaux, pas seulement pour les brûler, mais aussi pour les manger. Alors que, au début de la création, selon les deux traditions, les humains, comme les animaux d'ailleurs, sont créés végétariens. Hein ? Et le déluge fait une césure en acceptant, en fait, une partie de la violence qui est intégrée désormais dans la création, à une condition qu'on ne mange pas du sang, donc qui est évidemment une règle qui est encore respectée aujourd'hui dans le judaïsme et dans l'islam.
Ce que vous dites est important à double titre, c'est que cette question de la césure faite par le déluge, vous y insistez dans votre livre aussi, c'est que la Bible, c'est aussi, donc il y a une dimension narrative extrêmement forte, et c'est aussi le récit par en dessous de l'éloignement du divin. C'est-à-dire qu'on part d'un divin qui est finalement proche de sa création à un divin qui va s'éloigner. Et ce qu'on entend même dans la question du nom, alors on revient avec la question de la traduction, c'est comment on passe de Yahvé à Elohim. Et ça, c'est une dimension très importante et singulière aussi en tant que texte religieux de la Bible.
Alors on le voit assez clairement si on regarde simplement la narration sans se poser la question quel texte vient d'où. Ben, on voit que dans le jardin, en fait, Dieu se promène à l'intérieur du jardin. Il convoque le couple humain. Ensuite, dans l'histoire de Caïn et Abel, qui est aussi une histoire très importante au niveau de la réflexion sur l'origine de la violence, Dieu est encore sur la terre en disant à Caïn, qu'est-ce que tu as fait ? Et c'est après le déluge, en fait, Dieu s'éloigne. Il s'éloigne de plus en plus, et comme vous l'avez déjà dit, il va s'éloigner aussi dans la mesure où le Dieu d'Israël va devenir à un moment le Dieu unique. Et à ce moment-là, on va en effet, ce que vous connaissez sans doute dans le judaïsme, tabouiser le nom. C'est-à-dire, on ne va plus prononcer le nom de Yahvé. On va substituer à ce nom Elohim ou Hachem ou Adonai, le Seigneur. Et pourquoi ? Parce que Yahvé, c'est un nom propre. Si quelqu'un porte un nom propre, c'est pour quoi faire ? Ben, c'est pour le distinguer d'autres. Donc, vous avez tous des noms propres qui permettent à vous distinguer les uns des autres. Si tout le monde s'appelait Jacques ou Jeanne, ben, ce sera plus compliqué. Et en fait, le fait que le Dieu d'Israël s'appelle Yahvé, ça veut dire qu'il faut le distinguer du Dieu des Moabites, qui s'appelle Kemosh, ou des Ammonites, qui s'appelle Milcom, ou Dougarit, où vous avez Baal, et ainsi de suite. Mais au moment où vous affirmez, en fait, qu'il y a un seul Dieu, ben, pourquoi ce seul Dieu unique devrait avoir un nom propre ? Ça ne fait pas de sens. Donc on va, en effet, refuser, renoncer à prononcer ce nom. Le monothéisme n'est pas là au début. La Bible elle-même montre, si vous la lisez attentivement, qu'on imagine dans certains textes, Yahvé en conflit avec d'autres dieux, comme dans l'histoire d'Élie, où Yahvé est en conflit avec les prêtres de Baal. Et il y a d'autres textes où, par exemple, il y a une guerre entre les voisins à l'est. On va dire, quand on fait la paix, nous, nous possédons ce que notre Dieu nous donne, vous, vous possédez ce que Yahvé vous a donné. Donc, on a encore dans la Bible des traces, en fait, de cette idée des dieux nationaux. Et seulement petit à petit, on va passer au monothéisme pour se dire, en fait, le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu. Se pose alors une autre question, qui est une question aussi complexe. Si c'est le seul Dieu, pourquoi il y a un peuple qui a une relation particulière avec ce Dieu ? Et là, on va commencer à parler de l'élection, en disant, mais Dieu peut choisir qui il veut. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a le Dieu du monde entier, mais qui a une relation spéciale avec un groupe, un peuple.
Sachant que cette élection, vous l'évoquez à un moment aussi, elle est presque dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pour partie, c'est un peuple qui va se choisir parmi un ensemble de dieux possibles, entre guillemets, celui-là. Et cette hypothèse-là est évoquée aussi, en même temps que ce dieu se choisit, ce peuple.
En effet, sur le plan historique, on peut en effet montrer que ce dieu Yahvé était à l'origine sans doute un dieu d'un groupe nomade qu'on connaît dans les textes égyptiens, les Chassou, qui avait un dieu Yahwah, qu'un groupe du nom d'Israël a à un moment donné adopté. Et c'est comme vous dites, il y a un peu ce phénomène bilatéral, mais l'idée d'une élection de la part de Yahvé devient en effet une sorte de discours très théologique qu'on va en effet utiliser pour montrer à la fois l'universel et le spécifique.
Et un autre point sur lequel vous insistez, et vous l'avez évoqué là au travers des différentes possibilités d'interprétation qui sont offertes, c'est que l'une des singularités aussi, c'est justement la souveraineté, ce que vous appelez la souveraineté du lecteur.
Oui.
C'est-à-dire que la Bible, c'est un livre qui postule la souveraineté du lecteur, sa capacité à lire, à interpréter, à réfléchir à partir du texte qui lui est proposé. Et c'est pas simplement, un autre mot qu'on entend régulièrement, une vérité révélée qui serait complètement univoque.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire si vous lisez le texte biblique, ben, on a déjà évoqué quelques exemples où vous avez des textes qui ne sont pas toujours en concordance, qui ont des perspectives différentes. Et du coup, le lecteur est aussi un peu souverain, disons souverain. Il peut choisir en fait d'une certaine manière comment il va interpréter cette diversité. Et il pourra aussi se dire, je préfère cet énoncé par rapport à un autre. Je vous prends pour une fois, n'est pas coutume, je vais prendre un exemple du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Paul qui écrit beaucoup de choses. Certains disent qu'il aura dû écrire un peu moins. Ça, c'est Pierre qui dit ça dans son épître ou l'épître qui lui est attribué. Et dans un texte, il dit en effet, les femmes, il faut qu'elles soient soumises aux hommes. Il ne faut pas changer ça. C'est une sorte de donnée presque anthropologique. De toute façon, la fin du monde, c'est bientôt. Donc, les femmes, soyez soumises et surtout, ne parlez pas dans la communauté. Après, le même Paul va dire dans l'épître aux Galates, en Christ, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, entre juifs et grecs, tous sont égaux devant Christ. Alors c'est le même Paul et on a les deux textes. Alors évidemment, c'est un peu difficile de dire, c'est ironique. Donc on peut expliquer pourquoi dans un texte aux Corinthiens il dit ça et dans l'autre aux Galates il dit ça. Mais quand vous lisez ce Nouveau Testament ou ces deux épîtres de Paul, bah, vous êtes un peu quand même interpellé en disant mais qu'est-ce que je préfère là de Paul? Est-ce que voilà, je me dis en Christ il n'y a pas de différence, ou est-ce que je dis voilà, la femme doit rester soumise à l'homme? Donc vous avez les deux dans la Bible, et évidemment, ça demande un certain effort herméneutique en se disant on peut difficilement, comment dire, harmoniser les deux lectures. Il faut essayer de les comprendre, bien sûr, mais il faut peut-être aussi parfois faire du choix de lecture en disant peut-être finalement, si je pousse Paul dans cette dernier retranchement, c'est peut-être quand même les Galates qui sont plus intéressants.
Sachant que ce choix de lecture, il y a une sorte de soubassement qui est la question de la traduction. Et qui, là aussi, dans l'histoire de la réception de la Bible, est une question très importante, puisque, comme vous le dites à un moment, la plupart des traductions de la Bible sont des traductions chrétiennes, donc ça aussi, ça porte une signification. Donc on a aussi pour partie traduit la Bible de la fin vers le début, c'est-à-dire depuis la perspective du Nouveau Testament vers celle de l'Ancien. Et en même temps, le passage entre les différentes langues, il est aussi, on sait à quel point la traduction, c'est la transmission d'un savoir, mais c'est aussi le risque de quelque chose qui n'est pas compris ou qui est mal interprété.
Alors chaque traduction, Umberto Eco nous l'avait déjà dit, chaque traduction c'est un peu une trahison évidemment, mais en même temps on est obligé de les faire. Disons d'ailleurs c'était un grand progrès de la réforme ou de l'humanisme de manière générale de sortir la Bible non pas des langues originelles puisque c'était le latin qui était dominant, c'était la Bible en latin qui était la Bible catholique, mais au moment où les humanistes, les réformateurs disent il faut en effet que le peuple puisse entendre, parce que souvent, c'était pas la lecture, la Bible dans sa langue vernaculaire. C'était évidemment un grand progrès. une démocratisation. Et puis, on sait très bien que la langue allemande était harmonisée par Luther avec sa traduction de la Bible. Donc, l'allemand qu'on le connaît aujourd'hui, bah, sans Luther, ça n'existerait pas parce qu'il y avait tellement de parler que c'était vraiment très, très différent. Et évidemment, quand vous traduisez, vous utilisez aussi des concepts de votre langue, de votre culture, et c'est pas forcément toujours la même chose. On a traduit un mot hébreu, bah, je vous l'ai dit, nefesh, par âme, qui évidemment évoque toute une philosophie grecque, alors que nefesh, c'est pas du tout ça, c'est un peu le principe, c'est la gorge en fait, c'est ensuite par l'organe par lequel on respire, c'est le principe vital. Évidemment, quand on dit mon âme loue le Seigneur, on n'a peut-être pas tout à fait le même rapport au texte que si on le lit en hébreu, mais en même temps, il est impossible que tout le monde fasse de l'hébreu et du grec pour lire les textes bibliques, donc la traduction est importante, mais évidemment, c'est toujours aussi une transposition, et puis il faut le mieux, c'est comparer quelques traductions un peu pour se rendre compte aussi de la diversité des options que vous avez quand vous traduisez le texte.
Et de la même façon, les représentations visuelles, oui, paradoxalement, par une sorte de boucle de rétroaction un peu singulière, influence la lecture qu'on a de la Bible elle-même, c'est-à-dire quand les peintures, les films qu'on a pu voir.
Alors il y a les films, je sais pas, récemment j'ai vu un film assez horrible sur Noé, je sais pas, sur la Deuche. Alors là, c'est bon, enfin bon, on va pas discuter de cela. Mais déjà, si vous regardez l'histoire de l'art, c'est très intéressant. Quand on pense aux fruits que Ève va offrir à Adam, que le serpent lui propose de manger, bah, c'est devenu la pomme, surtout dans la tradition européenne, alors que dans le texte hébreu, il est toujours question du fruit. Donc on ne sait pas. Alors, on pourra dire que c'est peut-être une figue, parce qu'après, ils se font des pagnes avec du figuier. On ne sait pas. Vous connaissez aussi peut-être tous l'histoire de la conversion de Paul quand il va vers Damas, et on a l'impression qu'il tombe du cheval quand il y a cette grande lumière qui apparaît. Alors que dans le récit biblique, il n'est pas question du cheval. Apparemment, il était à pied, mais c'est tellement entré dans notre imaginaire, donc la manière dont on a reçu ces textes dans l'art, et puis évidemment l'art a aussi ses codes, et puis l'un copie l'autre, que parfois il est utile aussi de revenir au texte et de lire attentivement le texte. Donc parfois on a l'impression qu'on connaît l'histoire. On le connaît soit du catéchisme, soit parce qu'on a vu des tableaux, soit parce que quelqu'un vous a raconté l'histoire. Et puis, parfois, on peut être un peu interloqué quand on lit vraiment le texte attentivement. On se dit, bah, il n'y a pas vraiment de pomme, il y a un fruit. Puis on peut se poser la question, pourquoi tout à coup c'est devenu une pomme, ou pourquoi Paul est tombé du cheval.
Et ce qui est important, c'est que finalement, là, vous dites, quand on revient au texte, on peut être interloqué. Dans les deux sens, vous évoquez à un moment le caractère entre guillemets dangereux de la Bible, qui est un mélange de deux choses qui sont à la fois les usages qu'on en a fait, et en même temps, vous dites la Bible est un pharmacon, c'est-à-dire c'est à la fois le poison et le remède. C'est-à-dire que la diversité interprétative que vous avez soulignée à plusieurs reprises, elle fait que on peut aussi, si on souhaite lire certaines choses, les y trouver. Alors, c'est le
alors, oui, c'est un peu comme je dirais la librairie Mola, on y trouve tout, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que en fait, vous avez, et ça, je pense, c'est lié un peu à la réforme, à cette idée protestante que n'importe qui peut avoir un accès direct au texte biblique. Donc, ça, c'était un des slogans de la réforme, sola scriptura, l'écriture seule. Donc, c'était évidemment contre le magistère de Rome. Mais ça peut en effet aller dans deux sens totalement différents. Le premier sens, c'est que la Bible seule, la Bible seule, c'est parole de Dieu. Donc tout ce qui se trouve, il faut le prendre à la lettre. Et donc c'est cette idée en fait que il y a qu'à faire. Donc on prend la Bible un peu comme un livre de recettes et on pense que toutes les prescriptions, ils sont valables sans contexte historique, etc. Donc ça devient un peu le leitmotiv, le refrain des milieux qu'on peut appeler fondamentalistes, évangéliques, bien que là aussi il faut différencier à l'intérieur. Mais cette idée en fait que on peut lire la Bible telle qu'elle est. Mais ça devient très, très vite très difficile parce que vous avez, comme je vous ai dit, des textes qui se contredisent. Vous avez des textes... aujourd'hui, si vous voulez vraiment prendre la Bible à la lettre, il faudrait introduire la polygamie, il faudrait réintroduire l'esclavage, il faudrait introduire la peine de mort et bien d'autres horreurs encore. Donc là, parfois, on va dire, OK... Alors ça, c'est l'Ancien Testament, encore que dans le Nouveau Testament, il y a aussi l'esclavage. Donc, c'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, on va dire que c'est l'Ancien Testament. Et donc, Christ a aboli les lois de l'Ancien Testament. Mais quand ça vous arrange, vous allez quand même dire, mais cette loi-là, c'est pas aboli. Donc, je vous donne juste l'exemple qui était très parlant quand il y avait eu le grand débat sur le mariage pour toutes et pour tous. Où certains milieux conservateurs ont dit, mais dans les Lévitiques, on interdit l'homosexualité. Tu coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc tout d'un coup, ce passage-là était d'actualité, alors que dans l'autre discours, on dit, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout, parce que si on veut aller jusqu'au bout, le chapitre 20 dit, si quelqu'un fait ça, il sera mis à mort. Donc, on n'a pas entendu ça, heureusement, ou peut-être pas beaucoup. Mais donc, pour vous dire, il est impossible, en fait, de prendre la Bible à la lettre. Et ce qui est un peu effrayant, c'est que cette lecture-là, elle revient de plus en plus, de manière consciente et inconsciente. Tout à l'heure, on a discuté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Trump Bible, la Bible de Trump. Ça vous dit quelque chose ? Non, ça existe ? Alors, ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça montre beaucoup de choses. Je ne veux pas faire trop de politique,
oui, mais
juste vous donner les faits. Donc, Trump ou ses conseillers, ça, je ne sais pas si c'est lui-même qui avait cette magnifique idée, il a pris une Bible qui est libre de droit, c'est la King James Version, à laquelle il a rajouté la Constitution des États-Unis et quelques autres textes fondateurs, qui s'appelle donc la Bible de Trump, qu'il fait imprimer pour quelques centimes en Chine et qu'il vend à 70 euros partout, et qui est donc la Bible qui est approuvée par le président des États-Unis et qui est en effet le guide dans tous les domaines, comme ça a été dit. Donc l'idée, c'est que d'abord, on fait du business, mais après, on dit, il n'y a qu'à ouvrir la Bible Trump et vous avez la réponse à tout, à tous vos questions. Donc c'est quand même assez effrayant. Et indépendamment qu'il fait pas mal d'argent avec ça, mais déjà cette idée, en fait, une Bible qui porte plus le nom de Bible tout seul, mais la Bible, en fait, d'un président des États-Unis, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Il y a la Bible de Luther, parce que Luther l'a traduit, donc ça se comprend, mais la Bible de Trump, je ne sais pas ce que Trump a fait, il a juste pris un texte qui existait déjà. Et en fait, c'est un peu inquiétant, parce que ça refait, ou disons, la Bible redevient une sorte d'objet, une sorte de livre de recettes qu'on va quand même interpréter, parce que, comme je vous ai dit, on est obligé de l'interpréter, mais dont on oublie, en fait, le contexte historique. Donc, je pense que c'est très important. Et ça, c'est quand même l'autre, l'autre filière qui est sortie de cette idée que il n'y a que la Bible, c'est ce qu'on appelle après la lecture historico-critique, qui est aussi née dans le milieu protestant, dans les universités, dans les pays protestants, où on a fait, dans les facultés de théologie, une analyse historico-critique des textes bibliques pour montrer que le déluge est inspiré des textes mésopotamiens, que les textes ont leur contexte historique qu'il faut connaître pour bien les interpréter. Et donc, en fait, on a le pire et le mieux, d'une certaine manière, c'est-à-dire aussi cette acceptation qui est très importante, à mon avis, que la Bible n'est pas tombée du ciel et que si vous voulez comprendre le texte biblique, il n'y a pas d'immédiateté. Je crois que le judaïsme l'a beaucoup mieux compris que le christianisme. Il n'y a pas d'immédiateté, donc il y a toujours un effort d'interprétation, de compréhension à faire avant qu'on s'approche de ce texte. Et on n'est pas, nous ne sommes pas les lecteurs ou les auditeurs auxquels ce texte était d'abord destiné. Et ça, je crois, c'est très très important. Dans le christianisme, il y avait toujours cette idée qu'il faut mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle la Bible, en essayant de montrer que la Bible, en fin de compte, veut dire ceci ou cela, alors que le judaïsme a beaucoup plus favorisé, en fait, le dialogue, le débat, le questionnement qu'on trouve notamment dans le Talmud, qui est devenu une sorte de deuxième Bible, d'une certaine manière.
Oui, exactement, qui a un niveau presque d'importance.
Pour le judaïsme, aussi, c'est sûr que pour le... Alors, je ne sais pas si on peut tout à fait le comparer, mais pour le christianisme, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, traditionnellement, donnait toujours un peu les clés de lecture pour l'Ancien Testament. Pour le judaïsme, vous avez la Torah écrite, qui est la Bible, surtout le Pentateuque. Et vous avez la Torah orale, qui, entre-temps, est devenue aussi écrite, qui est le Talmud, en fait, qui contient les discussions rabbiniques autour des prescriptions, mais aussi des narrations qui se trouvent dans le Pentateuque.
Mais il me semble que pour illustrer ce que vous avez dit sur la tension entre, d'un côté, une lecture littéraliste et, de l'autre, une lecture historico-critique, cette année, vous consacrez votre cours au livre de Josué, oui. Et qui pose exactement ce problème-là. C'est-à-dire que ça peut être à la fois... lu comme un livre justifiant un certain nombre de choses politiques et même dans le très contemporain de la place d'Israël au Moyen-Orient. Et de l'autre côté, le travail que vous faites évidemment, vous, du côté historico-critique, c'est de montrer les conditions d'élaboration de ce texte et qui dit peut-être finalement l'inverse de ce qu'il prétend dire.
Alors, pour ceux et celles qui connaissent pas le livre de Josué, c'est un livre qui suit en fait le Deutéronome, le premier livre qui, dans la classification juive, fait partie des prophètes, qui, dans les Bibles chrétiennes, fait souvent partie des livres dits historiques. On raconte en effet la prise de possession du pays par les Israélites, comme une sorte de blitzkrieg, où en 14 jours, en fait, on va soit chasser, soit exterminer les populations autochtones. Donc c'est un livre qui est assez difficile et qu'on a utilisé à toutes sortes de sauces. On les a utilisés pour les croisades déjà, on a utilisé l'histoire de Josué et la conquête pour légitimer l'extermination des populations amérindiennes au moment où les colons européens sont arrivés en Amérique du Nord, en Afrique du Sud. On a utilisé ce livre de la même manière aussi pour légitimer l'apartheid. Et aujourd'hui, il y a certains milieux des colons et certains rabbins fanatiques qui identifient en fait les Palestiniens aux Cananéens dont on parle dans le livre de Josué. Donc c'est un livre qu'on a vraiment utilisé pour légitimer toutes sortes d'expulsions ou d'oppressions ou de dominations. Quand on regarde un peu l'histoire de ce livre, on se rend compte en fait que la première version de ce livre, parce qu'il n'y a aucun, ça on l'a pas encore dit, mais on peut peut-être la rappeler, il n'y a aucun livre ou rouleau biblique qui a été écrit d'une seule main. Donc il y a toujours eu des réécritures, des rédactions, etc. Et le premier moment où on a écrit le livre de Josué, c'est aux alentours du 7e siècle avant l'ère chrétienne, où le royaume de Juda était menacé par les Assyriens, qui avaient déjà en fait mis fin au royaume du Nord, au royaume d'Israël, qu'ils avaient occupé et ensuite avaient mis en place des déportations, intégrées dans le système des provinces assyriennes. Et puis, ils se prenaient aussi au petit royaume de Juda. Et quand on regarde les histoires qui se trouvent dans le livre de Josué, en fait, on constate, puisque on est très bien documenté sur la propagande assyrienne par le texte et par l'image, où les Assyriens, en fait, proclamaient qu'ils étaient le peuple le plus fort, que leur dieu Assur et tous les autres dieux qu'ils avaient autour leur avaient donné tous les pays du monde et qu'ils étaient appelés à dominer des quatre points cardinaux sur la terre. Quand on regarde le livre de Josué, aujourd'hui, on pourrait l'appeler une contre-histoire, c'est-à-dire on reprend en fait les mêmes histoires. On peut montrer des nombreux parallèles entre les récits de conquête bibliques et les récits de conquête assyriens. Ben, on se rend compte en fait que on reprend le discours assyrien, mais pourquoi faire? Pour le tourner en fait contre les Assyriens, en disant vous vous racontez ces histoires, nous on va vous raconter une autre histoire, en disant ben, vous dites votre Dieu vous a donné le pays, ben, notre Dieu nous a donné le pays. Et les populations qu'il faut chasser, qui portent des noms qu'on ne peut pas vraiment identifier, bah, finalement, en fin de compte, c'est les Assyriens qu'on veut débarrasser, qu'on veut voir débarrasser le pays. Donc c'est en effet, à l'origine, un livre de résistance. Et c'est très difficile, évidemment, si vous êtes vous-même dans une situation où vous êtes du côté des oppresseurs, bah, on peut prendre ce livre de résistance pour, en effet, un livre d'oppression. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez un peu l'histoire de la réception de ce livre, donc je vous ai dit que ça a été utilisé en fait pour légitimer la domination des populations amérindiennes et ensuite aussi lorsque on a importé des esclaves pour la cultivation des champs de coton, on voulait faire de ces esclaves noirs aussi des bons chrétiens. On aura lu certains épisodes bibliques. Et notamment l'histoire aussi de Jéricho, des murailles de Jéricho qui tombent. Et tout à coup, vous connaissez peut-être ce gospel, Joseph at the Battle of Jericho, où ces esclaves avaient compris en fait que derrière cette histoire des murailles qui s'effondrent, il y a un espoir, il y a un texte de libération et pas un texte d'oppression. Donc en fait, ça dépend de quelle position vous mettez pour comprendre ou non. Donc ils n'avaient pas fait des études d'exégèse, mais ils avaient senti quelque chose dans leur situation qui a fait en fait ressortir quelque chose qui était lié à ce livre de Josué. Donc je pense que c'est important qu'on essaye de bien comprendre ces textes, et évidemment ça montre aussi que on n'est jamais totalement neutre de la manière dont on lit ces textes. Et puis si vous êtes dans une situation d'oppresseur potentiel ou dans une situation d'opprimé potentiel, bah, vous n'avez peut-être pas le même approche par rapport à ces textes.
Oui, et c'est ce que vous dites aussi, de textes très singuliers que sont par exemple aussi bien le livre de Job que le Qohélète Ecclésiaste ou le Cantique des Cantiques, qui même au sein de l'ensemble biblique font figure de livres pour partie étranges. Certains parce qu'ils discutent théologiquement sur une question importante qui est celle de la rétribution, c'est est-ce que notre foi en Dieu sera récompensée de quelque chose ou est-ce qu'on n'a rien à attendre, ou même si on prend la question du Cantique, qui est un livre dont on peut jusqu'à un certain point être très intrigué de sa place et de pourquoi est-ce qu'il est là et qu'il y a mis, et si ce n'est la tradition, qu'est-ce qui fait qu'on l'accepte au sein de ce corpus-là.
C'est des textes, en effet, qui sont parfois assez étonnants quand on les lit, parce que bah, si on commence avec le livre de Job, vous connaissez l'histoire de Job, où, en effet, Job est dans toutes sortes de malheurs, et ses amis lui disent « tu as dû faire quelque chose de mal pour que ça t'arrive ». Et Job dit bah, « je n'ai rien fait du mal, donc normalement, ça ne devrait pas m'arriver ». Et ça tourne en rond. Si vous lisez les discussions avec les amis, c'est parfois un peu répétitif parce que chacun reste sur sa position. Pour ça, on le connaît jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment d'avancement dans le débat. Et du coup, Job, en fait, se prend à Dieu et en fait met en question cette idée de la rétribution. Ça va, si vous faites du bien, vous êtes dans le bien. Si vous faites du mal, ben, vous êtes dans le malheur. En disant, mais en fait, tu n'appliques pas ça. Tu prends en fait plaisir à torturer les humains. Donc Job accuse Dieu d'être un grand sadiste. Donc il y a des textes très très virulents qui se trouvent dans ce livre. Et à la fin, Job, bah, il reçoit deux réponses de la part de Dieu qui sont un peu compliquées et on n'est pas vraiment sûr si Dieu vraiment répond. Mais ce qui est intéressant, à la fin, Dieu dit à ses trois amis, vous n'avez pas parlé juste de moi, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc ça veut dire, ça intègre en fait la contestation dans le discours sur Dieu. Donc c'est un discours où il ne faut pas dire toujours vivi, bah Dieu va le faire. Bah, non, là c'est un Dieu qu'on ne comprend pas et auquel on crie qu'on ne le comprend pas et on traite de tous les noms. Et ce Dieu va dire ensuite aux amis, mais vous n'avez pas bien parlé, Job a bien parlé de moi, c'est-à-dire la contestation en fait fait partie d'une certaine manière, d'un discours sur Dieu. Après, on a donné au livre de Job tout un cadre où on essaie un peu d'amadouer les choses, puisque vous connaissez ce cadre, où il y a une sorte de pari entre Dieu et Satan qui concerne, en fait, est-ce que Job va rester fidèle à Dieu ou non. Et ça, c'est en effet pour faire de nouveau de Job une sorte de pieux exemplaire, ce qui n'est pas du tout à l'intérieur du livre. Alors, le Cantique des Cantiques, c'est très intéressant aussi, puisque on a intégré dans le texte ou dans la bibliothèque biblique aussi un texte qui est purement érotique. C'est un texte où on parle jamais de Dieu, peut-être une fois encore, on peut discuter, où en effet, on s'émerveille de la beauté du bien-aimé ou de la bien-aimée, avec des images qu'aujourd'hui, on a pas toujours, ça montre aussi qu'il faut expliquer, des images qui sont même hyper érotiques. Et après, on a eu du mal aussi, d'ailleurs on sait encore, parce que dans le Talmud, il y a un rabbin qui dit qu'il faut interdire de chanter le cantique dans les bordels. Donc ça montre quand même que les gens avaient senti qu'il y avait un certain potentiel dans ce livre. Et puis après, qu'est-ce qu'on en a fait? Dans le christianisme, on a dit, en fait, c'est l'amour du Christ vis-à-vis de son Église. Donc parce qu'on avait du mal, en fait, à accepter un livre qui parle du sexe, qui parle de l'éros dans la Bible. Mais je crois que la Bible ne se censure pas et on n'a pas besoin de la censurer non plus.
Et à la fin du livre, vous évoquez une chose qui me semble très importante, c'est l'invitation à la lecture de la Bible comme mythe, c'est-à-dire face à la vérité du réel, dire qu'il y a une autre mode d'approche de la vérité qui est celle du mythe. Alors, le mythe réincarné dans sa fonction propre, pas du tout dans le sens qu'on l'entend un peu aujourd'hui, qui est une bonne histoire pour coucher les enfants, mais véritablement comme ayant une fonction anthropologique extrêmement, extrêmement forte.
Alors, c'est lié un peu à la question comment qualifier notamment les récits que nous avons dans le Pentateuque, pas seulement, mais en grande partie, les histoires de la création du monde, du déluge, de la tour de Babel, les histoires d'Abraham et Sarah, et puis Isaac, Jacob et ses femmes, et aussi l'histoire de Moïse. Donc, c'est des figures, on peut discuter éternellement pour savoir est-ce qu'il y a eu un Moïse historique ou est-ce qu'il y a eu un Abraham historique, mais c'est des récits qu'on peut qualifier de mythes, dans la mesure où, en fait, c'est des récits construits peut-être autour de traces de mémoire, pas inventés de toutes pièces. Le problème, quand on dit qu'il s'agit des mythes, que très souvent, ça va évoquer une sorte de réaction un peu négative. « Ah, si c'est qu'un mythe, bon, ça sert à quoi ?» Donc derrière là, c'est un peu la question, qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la vérité du récit biblique réside dans l'historicité des récits? Là, on est très vite quand même embêté, parce que la création du monde en 7 jours, c'est un peu compliqué quand même. Donc là, peut-être on va dire c'est symbolique, mais quand on arrive au patriarche, ça devient déjà plus compliqué. Et donc on cherche toujours à tout prix, en fait, des noyaux historiques, qu'on peut peut-être trouver, mais de manière plus générale, c'est pas autour de l'Abraham historique ou du Moïse historique que le judaïsme s'est fondé. Le judaïsme s'est fondé autour des récits qu'on a transmis. On a commencé notre entretien autour de ce rassemblement de ces traditions. Et c'est pas le Moïse historique ou l'Abraham historique qui sont devenus fondateurs, c'est les récits qui s'y trouvent. Et je pense un mythe, c'est d'abord un récit, mais un récit qui construit une identité, qui dit quelque chose qu'on a du mal à dire simplement en relatant des faits, mais qui en effet devient fondateur d'identité. Donc je pense qu'il faut un peu réhabiliter le terme de mythe qui a souvent mauvaise presse. Et c'est pas forcément l'historicité des événements. Donc parfois, quand on vous parle des plaies d'Égypte, par exemple, on va vous dire... Ah, c'est peut-être parce qu'il y a eu le volcan du Santorin qui a eu une éruption et tout ce qui est découlé de cette éruption a provoqué des événements ou des phénomènes qu'on peut retrouver dans les plaies. Si on dit ça, on fait quoi? On essaye d'historiciser le mythe. Mais en fait, ce que le récit veut dire, c'est pas du tout qu'il y a eu une fois un volcan qui était en activité. Le récit veut dire que le dieu d'Israël, en fait, est plus fort que le pharaon et tous les dieux d'Égypte qu'il représente. Si vous mettez ça sur le dos du Santorin, en fait, vous perdez en fait le discours biblique et que vous le ramenez à une certaine banalité même. Donc, il faut en effet essayer de pas historiciser les choses, mais de les comprendre. Ça ne veut pas dire que toute la Bible est une pure invention, parce qu'il n'y a rien qui est jamais inventé à partir de rien. Si vous prenez la figure de Moïse, vous pouvez montrer les rapports entre le Levant et l'Égypte, tout ça, c'est bien attesté. Le fait qu'il y a des gens du Levant qui font carrière à la cour égyptienne, oui, mais ça ne nous donne pas l'historicité du récit de l'Exode, qui, en effet, se situe sur un tout autre registre. Donc, il veut montrer, en effet, comment le Dieu d'Israël va, en effet, faire de sorte que ce petit peuple qui se trouve en oppression, en esclavage, mais c'est un esclavage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de désigner sous ce nom, va pouvoir sortir de cette condition, la traversée de la mer. C'est pas un événement historique, mais c'est toute une symbolique, puisqu'on passe de l'ouest à l'est. L'ouest, c'est la mort, l'est, c'est la vie. Donc, il y a tout un registre symbolique et théologique qu'il faut comprendre pour comprendre les récits. Donc, je pense, on ne fait pas affront au texte biblique quand certains textes sont qualifiés de mythes. Je pense que c'est simplement une manière de dire quelle est la fonction de ces textes. Et donc, après, il faut que nous, on s'interroge peut-être nous-mêmes. Est-ce que l'historicité d'un événement dit quelque chose sur la vérité? Ben après, évidemment, c'est tout un discours tout un débat théologique, philosophique. Qu'est-ce que c'est la vérité? Comme disait déjà Pilate, c'est pas évident. Mais donc la question, est-ce qu'on n'est peut-être pas trop un peu en fond d'un certain rationalisme qui fait que tout ce qui s'est pas passé comme c'est écrit n'est pas intéressant. Je dirais c'est plutôt le contraire.
Donc finalement, la question qui se pose aussi, c'est celle de l'usage que peut faire le croyant ou la foi du discours historico-critique. C'est-à-dire que, est-ce que pour vous, ce sont finalement deux approches de la Bible qui sont parallèles et qui peuvent faire le choix de ne pas se rencontrer, ou au contraire, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une tension fructueuse entre les deux, et que finalement la foi du croyant, elle peut s'alimenter du savoir du chercheur?
Alors je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Après, je pense que la Bible appartient à tout le monde, croyant ou pas. Si on a une lecture croyant du texte biblique, à mon avis, il ne faut pas l'opposer à une analyse historique des textes. Après, chacun a sa manière d'être inspiré, parce que l'inspiration, c'est un autre thème. Je pense qu'il y a une inspiration, mais ce n'est pas une inspiration que vous tombe dessus. C'est l'acte de lecture et l'acte même que ce texte, tout à coup, devient parlant pour l'un ou pour l'autre. Ça, je pense, c'est pas une opposition avec un savoir sur le fait que c'est un texte qui accompagnait en fait un peuple et ensuite une grande partie de l'humanité à travers des millénaires, des siècles. Je pense que c'est pas une opposition. L'historicité, en fait, disons l'historicité, la densité historique, disons plutôt comme ça, elle est inscrite même dans ces récits qui ne cachent pas qu'ils ont été retravaillés, revus. Les rédacteurs, en fait, montrent que quand ils interviennent, ils effacent pas ce qui était là avant, seulement on rajoute quelque chose. Et nous, peut-être, quand on lit la Bible, c'est un peu aussi s'inscrire un peu dans ce travail des rédacteurs qui avaient un respect pour le texte, mais qui avaient aussi la volonté, en fait, que ce texte devienne plus parlant et qu'il s'adapte à d'autres situations, à d'autres contextes.
Et justement, vous évoquez à un moment dans le livre le caractère mystérieux de pourquoi ce livre-là, justement, a connu cette fortune-là. C'est-à-dire que, est-ce que ça tient aux caractéristiques propres de ce livre, comme vous dites, finalement, sa plasticité qui fait qu'il peut être... Ou c'est simplement, on va dire, la façon dont l'histoire de l'humanité, sous l'effet du christianisme, s'est pour partie modelée, qui a fait le succès de la Bible, ou est-ce que c'est l'inverse?
C'est une grande question. Alors, je pense, en effet, il reste un petit bout de mystère, parce que déjà, quand on commence, en fait, à se poser la question, pourquoi ce petit peuple judéen, exilé à Babylone, dispersé en Égypte, certes resté dans le vent, pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette idée de rassembler des textes? On ne connaît pas d'événements comparables. Évidemment, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Égyptiens avaient tous des textes, mais il n'y a jamais eu l'idée d'en faire une sorte de canon, je n'aime pas trop ce terme, mais de faire une sorte de collection de bibliothèques. Et cette bibliothèque, elle a eu, disons, la carrière qu'on lui connaît. Je pense, évidemment, le fait que la Bible a été connue partout, c'est via la médiation du christianisme, avec tout le bien, mais aussi avec tout le mal que cette médiation a pu avoir. Et je pense aujourd'hui aussi, il faut être tout à fait lucide sur ce que une certaine lecture chrétienne a pu faire aussi au judaïsme. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là où on pensait en fait à cette opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu démiurge, qui est un Dieu colérique, qui est un Dieu législateur, et le Dieu du Nouveau Testament, qui sera un Dieu empreinte d'amour et de paix, c'est peut-être un peu facile. Et aussi l'idée que le Nouveau Testament se suffirait à lui-même, ça c'est quelque chose... Je n'aime pas trop, je ne sais pas si vous avez dans la librairie Mola du Nouveau Testament tout seul. Normalement, ça ne devrait pas exister, parce qu'en fait, le Nouveau Testament n'a jamais été conçu pour se substituer à l'Ancien Testament. C'était une sorte de brochure annexe, mais toujours avec l'idée d'être lu avec l'Ancien Testament. Donc, je sais, c'est plus pratique parce que c'est plus bref et c'est moins lourd, mais normalement, une Bible chrétienne devait avoir les deux parties.
En tout cas, Thomas Rombert, merci beaucoup de cette lecture et de cette invitation, surtout à la lecture et à la lecture infinie de la Bible. Merci beaucoup.